Devant moi, Roxane de la Sablonnière. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène.
PhD, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et cofondatrice du projet Intercom. Roxane, aujourd'hui, le titre de votre chronique « Naviguer entre deux mondes, comprendre l'intégration identitaire », une chronique que vous avez préparée en collaboration avec Eya Ousseni, étudiante au bac en psychologie, et Myrim Safi, étudiante aussi au baccalauréat, cette fois en neurosciences cognitives à l'Université de Montréal. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de l'intégration identitaire, Roxane?
Oui, Hélène, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'autrice Kim Thuy a pris la parole sur le plateau de Tout le monde en parle.
Ouais.
Puis elle parlait avec beaucoup d'émotion de sa peine d'amour pour le Québec.
Ça avait fait des vagues.
Exactement. Et puis, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes immigrantes peuvent sentir une peine d'amour pour le Québec puis se sentir moins acceptées, par exemple, ou moins valorisées? Donc, c'est vraiment une question qui est importante parce que elle disait qu'elle ne se sentait plus chez elle, pas qu'elle ne se sentait pas chez elle nécessairement, mais elle sentait que c'était moins accueillant, qu'il y avait plus de restrictions, donc elle sentait pas qu'elle avait sa place à cet effet-là. Dans les politiques d'immigration, parce que ces politiques-là peuvent jouer un rôle important, on parle au Québec de l'interculturalisme. Donc, c'est un modèle qui repose sur un socle commun, c'est-à-dire que la langue française est importante. Aussi sur l'idée que la participation citoyenne, c'est important afin de construire une société avec des espaces partagés, puis une culture commune. Donc, c'est un modèle qui vise la cohésion sociale. Mais certaines personnes immigrantes peuvent avoir l'impression qu'il y a certaines lois, certaines réglementations qui deviennent de plus en plus restrictives.
Mm-hmm.
Par exemple, si on prend la loi de la laïcité de l'État, la loi 21, il y a eu de vifs débats. Il y a certains qui voyaient une mesure d'égalité, mais il y en a d'autres qui voyaient des contraintes identitaires importantes. On peut dire la même chose des modifications au programme de l'expérience québécoise dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Donc,
PEC.
Exactement, le PEC. Donc, même si... l'interculturalisme se veut une politique qui est ouverte. Il y a eu beaucoup d'ajustements politiques qui peuvent parfois donner l'impression que l'intégration devient plus exigeante, que certaines identités qui sont moins reconnues. Donc, ça illustre un paradoxe. Les immigrants et immigrantes veulent s'intégrer et contribuer, mais ils ont aussi besoin de se sentir valorisés. Quand cet équilibre se rompt, c'est un équilibre fragile, on s'entend, bien, il est possible qu'il y ait une peine d'amour collective qui émerge. Donc, parce que le processus d'intégration repose pas seulement sur les épaules des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes, mais aussi ça se construit des deux côtés.
En dehors de la politique, certains organismes comme le CSAI, qui est le Centre social d'aide aux immigrants, offre un programme de jumelage interculturel, soit une mise en relation entre des nouveaux arrivants et des Québécois à travers des activités collectives, des activités culturelles, sociales. Alors, je me demandais, de ce fait, s'il existe un lien entre la participation et l'intégration identitaire.
Oui, en fait, c'est vraiment important de participer à un groupe ou à une nouvelle culture quand on veut s'intégrer, quand on veut sentir qu'on fait partie de la nouvelle société ou de la nouvelle communauté. Puis souvent, lorsqu'on réalise, par exemple, des activités qu'on pourrait dire typiques d'un groupe d'accueil, bien, ça favorise l'identification à ce même groupe. Donc, l'identification, c'est quoi? Ça se définit comme la connaissance ou la reconnaissance qu'on appartient à un groupe. Donc, on y attache une valeur, puis une importance qui est émotionnelle aussi. Donc, par exemple, quand on participe à une culture, on pourrait signaler des nids de poules, donc on est engagé, on pourrait payer ses impôts, on pourrait participer à différents événements culturels. Donc, le fait de participer va renforcer ce sentiment d'appartenance au nouveau groupe. Donc, on a même fait une étude avec une de mes collègues à l'Université de Montréal, Diana Cardenas, qu'on a étudié justement ce prototype national, puis l'importance de participer à une culture. Puis ce qu'on avait fait, c'est qu'on a pris plusieurs groupes d'immigrants et immigrantes, on les a séparés aléatoirement dans différents groupes. Donc, certains visionnaient un match de hockey qui gagnait là, le match, d'autres visionnaient... une partie de basketball. Et puis, on s'est rendu compte que ceux qui ont visionné le match de hockey s'identifiaient plus fortement à la culture québécoise.
Avec les Canadiens de Montréal,
oui,
j'imagine.
Exactement, oui, exactement. Oui, désolée, je ne l'avais pas précisé. C'était une évidence pour nous, là.
Oui.
Donc, ils s'identifiaient plus fortement. Donc, le simple fait de visionner un extrait d'un match du Canadien de quelques minutes renforçait l'identification.
Ah, oui. On l'a vu, là, avec tous les matchs que les Canadiens ont joués. Il y avait une fièvre, il y avait des gens de tous les horizons, là. On en a vu des nouveaux arrivants.
Exactement. Et c'est là qu'on dit « on a gagné
ouais. »,
même si…
On va gagner.
Oui, on a gagné, même si nous, personnellement, on ne joue pas.
C'est
donc,
vrai.
Donc, c'est quelque chose qui est important pour notre groupe.
On est partie prenante d'un groupe. Alors, c'est vraiment intéressant, Roxane, mais il faut aussi mentionner qu'un travail d'intégration, c'est souvent long, c'est souvent compliqué. Alors, au-delà des politiques publiques et des débats de société, qu'est-ce qui se passe dans la tête et même dans le cerveau d'un immigrant, d'une immigrante qui vit ce processus d'intégration identitaire?
Oui, c'est vrai, Hélène, c'est un processus de longue haleine, ça prend du temps. Donc, il y a des processus cognitifs, cérébraux, très concrets qui sont présents. On pourrait parler, par exemple, et je ne vais pas parler de tous ces processus, mais il y aurait la mémoire autobiographique qui sert de fondation. Donc, les souvenirs, par exemple, du pays d'origine pourraient aider à donner un sens aux nouvelles expériences qui sont vécues dans la société d'accueil. Il faut aussi, lorsqu'on arrive dans une nouvelle société, une nouvelle culture, faire preuve de beaucoup de flexibilité cognitive. Donc ça, c'est la capacité de passer d'un cadre culturel à un autre. Donc, par exemple, si une personne qui est nouvellement arrivée ici, elle pourrait devoir s'adapter rapidement à des nouvelles normes sociales, comme le fait de saluer quelqu'un en s'embrassant ou bien de tutoyer une personne qu'elle côtoie alors qu'elle est habituée de vouvoyer les gens. Donc, ça peut être très difficile. Il y a beaucoup de régulations émotionnelles qui peuvent être impliquées aussi dans ce processus-là parce qu'on doit souvent gérer des conflits en lien avec l'identité, des tensions aussi parce que c'est pas facile de passer d'un cadre culturel à un autre. Il y a aussi de la recherche qui a été faite sur la plasticité cérébrale qui va dans ce sens. Il y a même des chercheurs qui ont fait de la recherche sur l'imagerie cérébrale. Donc, c'est une technique d'imagerie, le IRMF, qui ont montré que les individus biculturels, c'est-à-dire qui avaient deux cultures, une personne qui arrive ici puis qui s'approprie, pas qui s'approprie, mais qui intègre une nouvelle culture, donc, il y aurait des réseaux neuronaux qui seraient activés différemment selon le cadre culturel auquel ils vont penser. Donc, par exemple, lorsqu'on leur demande de penser à la représentation du soi dans un contexte culturel chinois versus occidental, c'est pas le même endroit du cerveau qui va s'activer.
Hey, ça va jusque-là.
Ça va jusque-là. Et ce n'est que le début.
Oui.
Je pourrais en dire beaucoup plus aussi.
Bien, j'espère que vous allez nous en dire beaucoup plus, mais pas pour l'instant, parce que vous nous quittez pour quelque temps, chère Roxane. C'était votre dernière chronique. Je vous remercie d'ailleurs pour cette chronique, pour ces éclairages. Ce qu'on tient, c'est que l'intégration identitaire, c'est un processus à la fois social, politique et profondément humain. Et il y a comme une pause là que vous allez prendre de votre vie médiatique. En tout cas, à Canal M, on ne vous reverra pas cette saison qui s'en vient, la nouvelle saison d'été, ni à l'automne. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez revenir à l'hiver 2027. On va s'ennuyer, mais qu'est-ce qui nous console, c'est que vous reviendrez parce que vous êtes importante dans l'équipe, Roxane de la Sablonnière.
Bien, merci beaucoup.
Merci, Roxane. Et puis, je vous souhaite un bel été, un bel automne.
Merci.